Voltaire, lettre 5, sur la religion anglicane. C'est ici le pays des sectes. Un Anglais, comme homme libre, va au ciel par le chemin qui lui plaît. Cependant, quoique chacun puisse ici servir Dieu à sa mode, leur véritable religion, celle où l'on fait fortune, est la secte des épiscopaux, appelée l'Église anglicane, ou l'Église par excellence. On ne peut avoir d'emploi, ni en Angleterre, ni en Irlande, sans être du nombre des fidèles anglicans, cette maison qui est une excellente preuve, a converti tant de non-conformistes qu'aujourd'hui, il n'y a pas la 20e partie de la nation qui soit hors du giron de l'Église dominante. Le clergé anglican a retenu beaucoup des cérémonies catholiques et surtout celle de recevoir les dîmes avec une attention très scrupuleuse. Ils ont aussi la pieuse ambition d'être les maîtres. De plus, ils fomentent autant qu'ils peuvent dans leurs ouailles un saint zèle contre les non-conformistes. Ce zèle était assez vif sous le gouvernement des Tories dans les dernières années de la reine Anne, mais il ne s'étendait pas plus loin qu'à casser quelquefois les vitres des chapelles hérétiques, car la rage des sectes a fini en Angleterre avec les guerres civiles, et ce n'était plus sous la reine Anne que les bruits sourds d'une mer encore agitée longtemps après la tempête. Quand les Whigs et les Tories déchirèrent leur pays, comme autrefois les Guelfes et les Gibelins, il fallut bien que la religion entrât dans les partis. Les Tories étaient pour l'épiscopat, les Whigs le voulaient abolir, mais ils se sont contentés de l'abaisser quand ils ont été les maîtres. Du temps que le comte Harley d'Oxford et Milord Bolingbroke faisaient boire la santé des Tories, l'Église anglicane les regardait comme les défenseurs de ces saints privilèges. L'Assemblée du bas-clergé, qui est une espèce de chambre des communes composée d'ecclésiastiques, avait alors quelque crédit. Elle jouissait au moins de la liberté de s'assembler, de raisonner de controverses et de faire brûler de temps en temps quelques livres impies, c'est-à-dire écrits contre elle. Le ministère, qui est Whig aujourd'hui, ne permet pas seulement à ces messieurs de tenir leur assemblée. Ils sont réduits dans l'obscurité de leur paroisse au triste emploi de prier Dieu pour le gouvernement, qu'ils ne seraient pas fâchés de troubler. Quant aux évêques, qui sont 26 en tout, ils ont séance dans la chambre haute en dépit des Whigs, parce que le vieil abus de les regarder comme barons subsiste encore. Mais ils n'ont pas plus de pouvoir dans la chambre que les ducs et pairs dans le Parlement de Paris. Il y a une clause dans le serment que l'on prête à l'État, laquelle exerce bien la patience chrétienne de ces messieurs. On y promet d'être de l'Église comme elle est établie par la loi. Il n'y a guère d'évêques, de doyens, d'archiprêtres, qui ne pensent être de droit divin. C'est donc un grand sujet de mortification pour eux d'être obligés d'avouer qu'ils tiennent tout d'une misérable loi faite par des profanes laïcs. Un religieux, le père Couraillé, a écrit depuis peu un livre pour prouver la validité et la succession des ordinations anglicanes. Cet ouvrage a été proscrit en France. Mais croyez-vous qu'il ait plu au ministère d'Angleterre? Point du tout. Ces maudits Whigs se soucient très peu que la succession épiscopale ait été interrompue chez eux ou non, et que l'évêque Parker ait été consacré dans un cabaret, comme on le veut, ou dans une église. Ils aiment mieux que les évêques tirent leur autorité du Parlement plutôt que des apôtres. Le lord Bolingbroke dit que cette idée de droit divin ne servirait qu'à faire des tyrans camailles et enrochets, mais que la loi fait des citoyens. À l'égard des mœurs, le clergé anglican est plus réglé que celui de France, et en voici la cause. Tous les ecclésiastiques sont élevés dans l'université d'Oxford ou dans celle de Cambridge, loin de la corruption de la capitale. Ils ne sont appelés aux dignités de l'Église que très tard et dans un âge où les hommes n'ont d'autre passion que l'avarice, lorsque leur ambition manque d'aliments. Les emplois sont ici la récompense des longs services dans l'Église aussi bien que dans l'armée. On n'y voit point de jeunes gens, évêques ou colonels, au sortir du collège. De plus, les prêtres sont presque tous mariés. La mauvaise grâce contractée dans l'université et le peu de commerce qu'on a ici avec les femmes font que d'ordinaire, un évêque est forcé de se contenter de la sienne. Les prêtres vont quelquefois au cabaret parce que l'usage le leur permet, et s'ils s'enivrent, c'est sérieusement et sans scandale. Cet être indéfinissable, qui n'est ni ecclésiastique ni séculier, en un mot ce que l'on appelle un abbé, est une espèce inconnue en Angleterre. Les ecclésiastiques sont tous ici réservés et presque tous pédants. Quand ils apprennent qu'en France de jeunes gens, connus par leur débauche et élevés à la prélature par des intrigues de femmes, font publiquement l'amour, s'égaient à composer des chansons tendres, donnent tous les jours des soupers délicats et longs, et de là vont implorer la lumière du Saint-Esprit, et se nomment hardiment les successeurs des apôtres, ils remercient Dieu d'être protestants. Mais ce sont de vilains hérétiques, à brûler à tous les diables, comme dit maître François Rabelais. C'est pourquoi je ne me mêle de leurs affaires.